I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est moi, Will Smith. Vous écoutez Le Chip, le meilleur podcast pop culture de tous les temps. Ouais!
Le printemps est arrivé en avance, ou on va tous mourir, au choix. La nature reprend ses droits, Mufasa honore le cycle de la vie, et les polémiques racisto-sexistes fleurissent spontanément sur nos réseaux sociaux de France et de Navarre. Habituellement, elles ont une durée de vie de 24 heures à peu près, avant d'être relayées par nos politiques, assorties de notre belle idéologie universaliste et laïcarde. Puis elles vont finalement mourir dans le sein des médias internationaux qui se foutent allègrement de nous. Détendez-vous, vous écoutez Le Chip. Je suis Mélanie Wanga et aujourd'hui je suis entourée des grands et beaux François Oulac.
Grand et beau, c'est nouveau mais merci, je prends.
Kevin Donat.
Petit et moche.
Et surtout Greg Germain.
L'œil vieux.
Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre et surtout voix française régulière de Will Smith. Donc on est très content de vous avoir, de t'avoir, on se tutoie.
Oui.
Et est-ce que tu peux dire bonjour, vous écoutez Le Chip ou c'est déjà relou?
Non, c'est pas relou, mais je le dis en quelle voix? Dans la voix de Will Smith ce matin, Hitch, machin ou...
Ouais.
Bonjour, vous écoutez Le Chip.
Merci. Alors Kevin, pour commencer, Kevin,
ouais.
Tu reviens de vacances bien
ouais,
méritées. C'était comment?
J'étais aux Canaries, c'était à la fois dépaysant, inspirant, parce qu'en fait c'est une île tropicale. Bercé par les alizés, donc ça me rappelle un peu de là d'où je viens. Mais en même temps, c'est pas exactement les mêmes problématiques, on parle pas de toutes ces questions d'identité de la même façon. Sauf que j'ai fait quelques musées et je vous ai ramené des cadeaux. Alors j'ai fait le musée Christophe Colomb, ce qui vénère Christophe Colomb aux Canaries. En fait, il passait par les Canaries avant d'aller découvrir l'Amérique. Parce que je précise que dans ce musée, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il y a beaucoup d'euphémismes. Par exemple, les habitants des îles Canaries sont partis s'installer dans le Nouveau Monde suite au dépeuplement qu'il y a eu au XVIe siècle dans ces coins-là du monde, etc. Donc, je vous ai ramené des petits cadeaux. Mélanie, tiens, ça c'est pour toi, on commence par toi.
Merci.
Vas-y, ouvre.
C'est emballé.
Ouais.
Gran Canaria. Ok. Bon, je l'ouvre un peu.
À l'arrache, vas-y.
Et donc c'est...
C'est Tara. Tara, c'est une idole, c'est une divinité des populations préhispaniques qui habitaient avant que les Espagnols arrivent. Et en fait, c'est une déesse évidemment féminine, aux formes très généreuses.
Mm-hmm.
Et en fait, c'était une société qui n'était pas vraiment patriarcale. Pourquoi ? Parce qu'on y pratiquait la polyandrie.
D'accord,
donc les femmes avaient plusieurs hommes.
D'accord.
En fait, une femme pouvait avoir jusqu'à 3 époux et les époux tournaient. C'est-à-dire que par exemple pendant un mois elle a un mari et puis il s'en va et puis
le deuxième arrive.
En fait c'était pas tous en même temps, c'était à la suite.
C'est un peu comme la rotation dans une section.
Les rotation, c'est ça. Donc je me suis dit que ça te plairait, c'est de l'empowerment féministe au 15e siècle dans les îles Canaries. Donc ça c'est pour toi Mélanie.
Merci,
et puis toi François, il est un peu moins woke ton cadeau, mais c'est très intéressant, vas-y retourne.
Moi j'ai le cadeau problématique.
Un peu ouais.
Ok, alors c'est un t-shirt jaune avec un personnage qui ressemble un peu à une sorte de personnage un peu...
Il a une afro.
Tribal, oui, ouais. Il a une afro, il a pas l'air très content et ça dit « Rendirme no antes me en risco ».
Est-ce que tu vois les traductions qu'il y a écrites en dessous? Est-ce que tu
ouais.
comprends de quoi il s'agit?
Alors... je vais jamais me rendre, je préférerais encore me jeter du haut d'une montagne. Ok, d'accord.
Ou d'une falaise. Est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Là, comme ça, non.
Est-ce que tu as déjà entendu parler du tombeau des Arawaks ou du tombeau des Caraïbes en Martinique?
Oui, ah, ok,
voilà.
D'accord. Ouais.
Donc, ça, ce monsieur, c'est pas du tout un Caraïbe, c'est un Guanche. Les Guanches, c'est les populations qui habitaient avant que les Espagnols n'arrivent et qui se sont évaporées mystérieusement. au moment de l'arrivée des Espagnols. Et il y a des petites légendes qui diraient qu'ils se sont, par exemple, jetés de falaise plutôt que
comme
de se rendre.
Comme les Lemmings.
Comme, non, mais comme tous les.
Y a comme plein dans les films de Shyamalan où
exactement,
les gens se suicident.
Exactement. Comme dans plein de trucs aussi, tu vois, de peuples, de tribus qui ne veulent pas être conquises et qui préfèrent la mort, etc. Et donc les Guanches, ils ont un peu disparu. C'était des populations venues du Maroc, des populations berbères qui se sont installées là-bas au Moyen-Âge. Et puis ensuite, bon ben voilà, il y a eu la rencontre avec l'Europe et puis voilà, c'est un autre pays maintenant.
Merci beaucoup, Kev.
Voilà.
Je
le
mettrai volontiers pour dormir.
Je t'en prie, c'est toujours un plaisir.
Alors, au menu cette semaine, dans le Chip, une émission 80% Greg Germain, sa vie, son œuvre, l'importance du travail des doubleurs noirs en France. Et donc 10% de recommandations et 10% d'amour-haine avec notre rubrique Trash ou Iconique. Alors, je vais commencer. Il y a quelques mois, Netflix a droppé une bande-annonce, donc la bande-annonce d'une série qui a fait un peu trembler le Black Twitter international, celui de l'éternelle sorcière, pardon, Siempre Bruja, en VO. Donc, il s'agit d'une production colombienne qui met en scène une héroïne afro-colombienne. Donc, youpi pour la représentation, on est content. Dans le rôle d'une sorcière puissante dans la Colombie moderne. Et donc, on sortait pour une fois des représentations états-uniennes, quelque part. Donc, que demander de plus ? Bah, du coup, j'ai regardé quelques épisodes, au moins quatre, et ma sentence est tombée. Cette série mérite un bon gros trash, et je vais vous dire pourquoi. Alors, le pitch de Siempre Bruja, la sorcière éternelle, c'est quoi ? C'est en 1646, à Carthagène, l'esclave Carmen est amoureuse du fils de son maître blanc. Donc déjà, ça fait un peu mal. Parce qu'il lui a appris à lire. Et donc, elle est condamnée au bûcher pour cet amour illicite. Et donc, son mec, Cristobal, se prend une balle. Entre-temps, Carmen...
D'où le nom.
Voilà.
Carmen... Je ne veux pas la faire, mais...
Carmen a passé un accord avec un sorcier pour revenir dans le passé et sauver son cher étendre. Et en échange, elle devra récupérer un MacGuffin, un truc qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, pour le sorcier dans le futur. Donc après son exécution, Carmen se réveille en 2019 et c'est là que les ennuis commencent. Alors, mon opinion, c'est que la série souffre de plusieurs problèmes difficilement excusables, notamment la forme. Imaginez les production values de Undo Stress et le jeu des acteurs de Plus belle la vie. Et ça pendant 10 épisodes d'une heure. À scoltiner.
C'est pas un truc un peu, c'est pas une esthétique un peu télénovelasse assumée.
Ouais, mais assumée, mais pas bien fait quoi.
D'accord.
Tu vois. Donc ouais. Déjà malaise. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est le fond de scénaristique de l'histoire qui pose vraiment problème, parce que l'héroïne est noire et l'histoire, on dirait, passe son temps à s'en excuser en faisant d'elle une espèce de témoin passif de son histoire au lieu d'un vrai personnage actif qui fait des trucs quoi. Donc du coup, Carmen, elle observe, elle reçoit de l'aide, elle a peur, mais en fait, elle prend jamais vraiment d'initiative pour faire avancer son histoire, son destin. En tout cas, pas dans les 4 épisodes que j'ai vus. Et surtout, elle est entourée en majorité d'hommes blancs qui lui disent tout le temps quoi faire et comment le faire pour arriver à son but. Donc du coup, c'est comme en 1646 au final, 2019, pareil. Donc on récapitule, son mec esclavagiste, c'est un homme blanc. Le sorcier avec qui elle passe en deal, un homme blanc. Son pote gay de 2019, un homme blanc. Un fantôme qu'elle aide, un homme blanc. Le nouveau mec dont elle tombe amoureuse en 2019 avec un gros triangle amoureux, un homme blanc. Du coup, pour moi, la limite en homme blanc est un peu explosée, quoi. J'ai eu du mal. Alors ça vient peut-être du fait que les scénaristes de la série, qui s'appellent Ana Maria Parra et Diego Vivanco, sont eux-mêmes des personnes blanches, roses, je sais pas. Donc on peut comprendre leur envie de se sentir représentée à l'écran. Donc voilà. Mais en vrai, personnellement, moi j'ai perdu très vite tout intérêt pour le scénario et pour l'histoire. J'en avais rien à faire de savoir comment ça allait se terminer. Mais en fait, ça m'a fait vraiment penser à ce qu'on a loupé, quoi. On aurait pu avoir tellement mieux. On aurait pu avoir une sorcière brûlée par les esclavagistes qui revient en 2019 et se lance dans des études de Black Studies pour démanteler le racisme institutionnel.
Ça aurait pu être un slasher, tu sais, où elle arrive, elle dézingue tout le monde avec des boules de feu.
Mais oui, tu vois, tout était possible, quoi. Et parce qu'en plus, la sorcellerie, c'est quand même une métaphore du pouvoir des femmes, à la base. Et ici, Carmen, elle a beau faire des petits tours de magie, un peu de prestidigitation, mais on la craint pas du tout. On est très très loin de The Craft, par exemple. Donc en conclusion, je dirais que je suis déçue mais pas choquée.
J'ai une question.
Comme d'habitude.
J'ai pas suivi, c'est une production Netflix ou c'est juste oui. Une production colombienne?
Alors je sais pas, mais en tout cas Netflix, quand ils rachètent, ils mettent quand même Netflix original. Ouais. Donc je sais pas. Mais voilà. Et effectivement, on a beau prôner l'universalité pardon, des histoires, moi je trouve que quand c'est des personnes blanches qui écrivent sur certains sujets, c'est souvent la même sauce en fait. On retrouve toujours les mêmes écueils un petit peu. Et pourtant c'est typiquement le genre de série dont j'aurais pu vous rebattre les oreilles en disant « Eh, faut regarder, c'est trop bien, c'est féministe et tout !» Parce qu'il y a une héroïne forte, des voyages dans le temps, des histoires de triangles amoureux. Mais en fait non, c'est de la demeure quoi. Donc trash et un blâme pour Netflix.
Greg, tu regardes Netflix? Tu as Netflix?
Oui, j'ai Netflix, mais ce que tu dis est très juste. Mélanie, c'est d'où on parle. Ça n'est pas tant qui parle, mais c'est d'où on parle. L'assignation est ainsi faite que, je veux dire, si on ne peut pas raconter nos propres histoires, personne ne les racontera bien. C'est notre problème et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'auteurs. Nous avons aussi besoin d'argent pour que ces productions puissent voir le jour, bien sûr. Mais nous avons surtout besoin d'auteurs. Nous avons besoin d'auteurs, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit dans des fictions de merde comme celle-là, nous avons besoin d'auteurs.
C'est
et
vrai.
Tant que les autres parleront à notre place, il y a un proverbe africain, je crois, enfin bon, il peut être qu'africain, puisqu'on parle de lion, tant que les histoires de chasse glorifieront les chasseurs, elles ne seront pas racontées par les lions. Donc, c'est comme ça, quoi.
Ouais.
Et donc, cette assignation est pour moi évidente, raconter les histoires. Et puis, évidemment, quand on a l'occasion, un ou un petit peu de pouvoir, tenter de la détourner. Parce que on peut avoir les plus belles histoires si il ne veut pas. Celui qui a l'argent, celui qui a le pouvoir, celui qui est à la télé, celui qui exploite les films, celui qui les diffuse, celui qui les produit. Tant qu'on n'aura pas ce pouvoir-là,
ça sera compliqué.
Ça va être compliqué. Les Américains noirs l'ont très bien compris, avant la Blaxploitation dont on en parlait la dernière fois avec François, qui ont commencé par faire des films, et d'une façon très simple. Hein, Melvin Van Peebles, que je connais personnellement, je dirais pourquoi après. Melvin a fait un film qui s'appelle Sweet Badass Badass Song et qui n'est sorti que dans les ghettos et qui a gross 60 million dollars. Allez, 60 millions de dollars, c'est pas hier, hein, c'était en 69, 70.
Aujourd'hui, ça vaudrait 5 fois plus, voire 10
oui,
fois
oui,
plus.
Oui, mais ça a permis justement à plein de bons, de moins bons, de prendre des acteurs, des héros, Shaft vient de là, etc. etc.
Ouais. Bon, donc l'autodétermination, voilà. Quoi.
Oui, si on peut, si on pouvait, si on savait le faire, si on était un vrai groupe social, ce que nous ne sommes pas.
C'est l'enjeu de la représentation, quoi.
Alors cette quinzaine, moi je me charge du trashico des réseaux. On va continuer à parler cinéma et question de représentation aussi. Cette semaine, la question qu'on vous a posée est à propos du film Green Book. La victoire de Green Book aux Oscars fait polémique. Certains jugent le film médiocre et complaisant. D'autres aiment son côté feel good et saluent la performance de Mahershala Ali. Vous, vous en dites quoi? Trash ou iconique? Et les réponses qu'on vous propose, c'est Mahershala rules, donc Mahershala déchire et on célèbre sa victoire. Fuck les white saviors. Ou la troisième possibilité, je ne vois pas les couleurs. Vous avez été plus de 260 à répondre.
Ouh.
C'était serré, je crois, hein, les résultats. Un peu.
Non, ça va. C'est 50% pour 50% de anti-white saviors, 36% de pro-Mahershala et 14% de gens qui ne voient définitivement toujours pas
qui,
les
qui
couleurs.
Qui sont-ils?
Je sais pas, ils sont pas, c'est anonyme. On a Amel qui nous dit que Mahershala est trop fort et qu'elle est très contente, en gros, qu'il ait gagné, mais qu'elle a l'impression d'avoir été manipulée, d'avoir vu une certaine perception de l'histoire sans avoir eu d'avertissement au début. Une histoire vraie, faussée, aussi jolie soit-elle.
Il aurait fallu une sorte de disclaimer au début du film, tu sais, genre ceci est une fiction et toute ressemblance avec des...
j'ai presque envie de te dire que c'est les détournements et les parodies qui m'ont donné envie de voir le film, parce que je l'ai vu hier soir. Et jusqu'à il y a quelques jours, j'avais pas trop envie de le voir, et quand j'ai vu les late shows américains de type Dizzy and Mero faire The Greenest Book, on vous mettra le lien, c'est absolument hilarant. Je me suis dit, voilà, je suis en train de rater un moment de culture, il faut que je regarde ce film.
Donc, review.
Ça va pas être très long, mais en gros, c'est pas un mauvais film, le film est pas dans le mauvais sens de l'histoire. C'est pas un film pro, je sais pas, alt-right ou pro-ségrégation, tout ça, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je pense que le principal problème de ce film, c'est qu'il ne prend pas en compte l'époque dans laquelle on est. Il arrive après d'excellents films noirs, avec des acteurs noirs, mais aussi avec des gens, des réalisateurs, des producteurs noirs. Je pense à que ce soit... En fait, il y en a pour tous les goûts, de Bill Street à Black Panther, Moonlight, à Black Klansman, à Moonlight. Il y avait vraiment un choix très fort de films noirs qui parlent de ces questions-là de façon plus ou moins frontale. seul, de façon beaucoup plus moderne, centrée sur des personnages noirs. Green Book, c'est pas ça. Green Book, c'est beaucoup plus traditionnel, et effectivement, la famille du personnage qui était censé être le personnage principal, donc le musicien noir Don Shirley, la famille a appelé au boycott du film.
Moi, c'est pour ça que je l'ai pas vu, en fait. La famille a dit, regardez pas, j'ai pas regardé.
Il est disponible en torrent.
Et donc, faites-vous votre propre avis. La famille a dit ça, mais faites-vous votre propre avis avant de décider.
Avant les Oscars, je soutenais la famille.
Ouais, mais fais-toi ton propre avis sur le film avant de savoir.
Alors, ce qui pose problème principalement à la famille, en tout cas ce que la famille dit, c'est que Don Shirley est montré comme quelqu'un qui a un problème avec sa blackness, sa négritude, et qui est complètement en marge et qui ne connaît pas sa culture. Et c'est Tony Lip, donc italien-américain,
comment manger du poulet.
Qui lui apprend comment manger du poulet, mais c'est même pas ça. Ça pourrait être un truc parmi tant d'autres, mais c'est le poulet, c'est la musique en fait. Il connaît pas Little Richard, il connaît rien du tout. Il connaît, mais il écoute pas du tout de cette musique-là, et donc il est complètement rejet. Et sa famille dit, mais il était ami avec Dr. Martin Luther King, il a fait la manifestation à Selma, il était proche de Nina Simone, de plein d'autres personnages de cette époque-là. Enfin, cette présentation aussi de Don Shirley est... Enfin, c'est vraiment comment Hollywood romance des choses aussi pour pouvoir faire des belles oppositions et faire des choses très manichéennes.
Ouais, tu veux dire, ils ont présenté une version totalement biaisée de la réalité et surtout complètement déchargée de sa charge politique. Quoi. Ouais.
Et ils ont recentré l'histoire sur un personnage.
C'est pas déchargé de comment dire d'éléments politiques, ça parle de ségrégation, il y a vraiment du racisme qui est montré, c'est combattu, etc. Mais encore une fois, ça reste souvent le problème. Le racisme, c'est le problème des blancs pauvres du Sud qui sont agressifs et méchants. C'est pas le problème des élites qui, elles, vont le voir se produire et qui, elles, sont ouvertes d'esprit et modernes et bienveillantes, alors que c'est plutôt les élites qui dirigent et qui en fait acceptent d'aller voir Don Shirley dans le Sud se produire sur scène, mais qui n'acceptent pas nécessairement qu'ils mangent à côté d'eux à leur table. Donc c'est plus complexe que ce que présente le film. Je dirais surtout que moi, ce qui me pose problème, c'est j'ai pas de problème à ce que ce film existe. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de blancs, donc il y a un marché pour faire la ségrégation friendly pour cette vision du film. Puis d'ailleurs, ça n'a pas plus qu'aux blancs. Mais ce qui me dérange, c'est présenter ce film-là qui gagne un Oscar comme un Oscar donné à l'histoire, à la lutte contre la ségrégation, à des choses comme ça. C'était pas du tout le film le plus engagé. Si on voulait récompenser l'engagement.
Ne dis pas Black Lanzmann.
Non, j'allais dire Roma.
On sait que t'es un hater de. De Black Lanzmann.
Roma, par exemple, c'est la vision des femmes de ménage natives américaines, amérindiennes. C'est beaucoup plus original et innovant, aussi bien sur la forme et sur le fond que ça, quoi.
Ok. Donc voilà. Tu donnes trash, du coup, j'imagine.
Je ne vois pas les couleurs.
Alors Greg, on est ravis encore une fois de te recevoir dans l'émission. Je vais d'abord balancer quelques éléments biographiques à ton propos pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu te situer, toi et ton parcours. Et puis ensuite, on va parler un peu des sujets qui nous intéressent. Tu as un peu plus de 70 ans.
Oui.
Tu es né... Tu es né à Pointe-à-Pitre.
En Guadeloupe.
Donc en Guadeloupe. Question de curiosité, tu rentres souvent là-bas?
J'y allais souvent quand ma mère était encore de ce monde. Il y a 8 ans qu'elle est partie, j'y vais un peu moins. Mais oui, je vais y aller dans 2 mois.
D'accord.
J'y vais.
Vous êtes de quelle commune, les Germains?
Hélas, les Germains sont de Pointe-à-Pitre, enfin pour cela, mais mon père était de Marie-Galante, de Grand-Bourg, et ma mère était de Capesterre, de la Guadeloupe. Ce qui fait que je suis en Basse-Terre, à Marie-Galante et en Grande-Terre.
Donc d'accord.
Je suis vraiment guadeloupéen.
D'accord, nous, les Moulacs, on est du Moule, mais on est basé à Goya. Bref, j'aime bien toujours savoir un peu les communes. C'est un peu la guerre des communes. Donc, tu es comédien, metteur en scène, acteur. On t'a vu dans des séries à la télévision, comme par exemple Médecin de nuit dans les années 80, qui était une forme de... C'était un peu une version française de Urgence, mais genre bien avant Urgence, bien avant que ce soit cool. C'est ça, c'est un proto-Urgence.
Tu faisais Georges Clooney?
Non, si tu veux, je faisais Alpha, mais comme j'avais cet âge-là, oui, j'ai reçu quelques dizaines de milliers de lettres.
Mais t'as un léger air de Benton, du docteur Benton d'urgence. J'ai regardé les extraits.
Demandant en mariage.
On t'a vu également à la télévision dans la série culte H sur Canal+, où tu jouais.
Un truc dans H.
Désiré Césaire, le père d'Aimé, quand même, il faut le dire. Je suis désolé. Ça parle à notre génération.
C'est cultissime pour moi, H.
On t'a vu dans Anti sur scène au cinéma de Pascal Zitimus. On t'a vu également, on te voit dans la série Shérif, la série policière sur France 2. Et donc à côté de toutes ces activités, tu as été président du festival Off d'Avignon et tu es évidemment doubleur. Tu as doublé énormément d'acteurs afro-américains différents comme Danny Glover, Samuel Jackson, Sidney Poitier, Denzel Washington, mais évidemment le rôle pour lequel on te connaît le plus et dans lequel tu es dans les tympans des Français sans même parfois qu'ils le sachent, c'est le rôle évidemment de Will Smith. I, Robot, c'est toi. Hitch, c'est toi. Men in Black, c'est toi. You name it.
Non, mais c'est surtout le Prince de Bel-Air.
Et surtout le Prince de Bel-Air. Donc on va commencer par le commencement, on va parler du Prince de Bel-Air. Voilà, on se met un peu du générique. Now this is a story. Série culte, Le Prince de Bel-Air, produite par... Vous savez par qui est produite la série ?
Quincy Jones. Tu ne m'auras pas.
La base. Voilà, Carlton, la danse de Carlton, le check, boum, psh, on connaît tous.
Avec Jazz.
Oui, avec Jazz, DJ Jazzy Jeff. Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu as tout simplement obtenu le rôle de Will Smith à la télévision et est-ce que tu l'as rencontré, Will Smith ?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. En tout cas, deux fois, ça fait plusieurs, oui. Comment je l'ai obtenu ? Parce que je doublais plein de trucs et que j'ai une bonne voix en cela qu'elle est très, comment je vais dire, plastique. Je peux la graver, je peux la rendre plus légère, etc. Et c'est ce qu'on me demandait. Et puis, j'ai passé des essais hein, pour ça. C'était dans une société qui s'appelle La Sophis. C'était de sonorisation. Et effectivement, j'ai tout de suite piqué ce personnage que je trouvais intéressant. Je le trouvais intéressant parce qu'il était relativement iconoclaste. C'était la première série noire américaine, entre guillemets, que je voyais produite par justement quelqu'un comme Quincy Jones, c'était une famille très aisée, et lui, c'était une espèce de poussin égaré dans ce truc-là, et parfaitement, c'est un jeune de banlieue qui arrive dans le 16e, c'est ça qu'on peut dire. Mmh. Quand le premier essai que j'ai fait, ils ont renvoyé aux États-Unis, les États-Unis ont dit, oui, c'est absolument ce personnage.
J'ai vu une interview de toi où tu racontes une rencontre avec Will Smith et tu dis que Will Smith te dit que t'as la voix de son père, c'est ça?
Oui, ça c'est très drôle.
Bah, raconte-nous un petit peu peut-être ta première rencontre avec Will Smith. C'était dans les années 90, c'est ça?
Dans les années 90. Juste en 96, j'étais en Californie. Je crois qu'il allait faire ou qu'il venait, je sais plus. On m'a dit, tiens, il y a Will Smith dans ce restaurant, j'y suis allé. Et puis j'ai dit, it's you. J'ai dit, oui, alors on parle comme ça. Bon, I speak a fairly good English. Et puis il me dit, bon, à part l'accent anglais, effectivement, t'as la voix de mon père. Alors ça m'étonne pas que...
Il avait vu la VF.
Il avait vu la VF. Oui, non, pardon. C'est quand je lui ai parlé en anglais qu'il a dit, ouais, ça tomberait bien, puisque
Il a reconnu la voix.
Il avait déjà dépassé... Alors, c'était pas en 96, ça devait être en 98. Il avait fini de faire Le Prince de Bel-Air.
Parce que ça a été diffusé beaucoup plus tard chez nous, c'est ça ?
La série, il y a eu 148 épisodes entre 90 et 95, je crois. Mm-hmm. Pendant 5 ou 6 ans, voilà. Et il était en train de... Il allait faire son premier film, que je n'ai pas fait, qui est... Ou qu'il avait fait, écoutez, je sais plus, parce que c'est trop vieux, moi je suis trop jeune pour tout ça, c'est pas possible. Voilà, et puis je l'ai revu une deuxième fois à propos de... à la sortie de... comment s'appelle ce film ? À la recherche du bonheur, que j'ai trouvé extraordinaire. Où là, il a vraiment pris beaucoup de poids parce qu'il jouait un rôle avec son fils qu'il aime beaucoup. Il est très familial.
Ouais, ça se voit sur les réseaux.
Et vraiment, c'était même si c'était pas son fils qui jouait, c'était vraiment très touchant, très criant de vérité. J'ai beaucoup aimé ce film-là.
On s'est rencontrés il y a 2 semaines, du coup, avant que tu viennes ici dans l'émission. Et tu as pris contact avec moi par Twitter. Et je vais dans les locaux de ta société de production pour discuter avec toi. Et je suis un petit peu déçu, en fait, quand je te rencontre. Parce que je m'attends à entendre Will Smith. Je sais que tu es la voix de Will Smith quand je te rencontre, je te serre la main. Mais je m'attends à entendre Will Smith. Et en fait, quand on te voit comme ça et quand on t'écoute parler, on n'entend pas nécessairement le...
C'est la voix de Greg Germain.
C'est ça.
Et pourtant, parce que qu'est-ce que c'est le travail d'un comédien de doublage ? Je préfère dire ça parce qu'un doubleur, c'est celui qui commande des doublages. C'est c'est-à-dire celui qui les achète, qui achète le produit américain et qui doit le doubler. Donc, son travail, c'est quoi? C'est de rester au plus près du personnage, c'est d'essayer le plus possible de jouer les mêmes sentiments que le personnage, et puis c'est surtout d'apporter, tenter de se faire oublier, mais d'apporter à sa voix quelque chose qui fera que le public reconnaîtra toujours cette voix, soit dans des intentions, soit dans un certain rythme de la phrase. Et c'est ça qui, pour moi, fait un bon doublage.
Bon, on va écouter un mini extrait, du coup, de ce que de tes performances dans Le Prince de Bel-Air.
Elle, c'est ma petite cousine Ashley.
Salut.
Et ça, c'est mon garde du corps, Jeffrey.
C'est génial.
Tout ça, c'est mon oncle Phil. Et tu te souviens qu'on disait toujours que Daffy Duck devait avoir un petit frère quelque part? Alors je te présente mon cousin Carlton. Hein?
Tu vois.
Faut pas toucher.
Quand tu parles de voix élastique à moduler, c'est clair que entre la personne qu'on a aujourd'hui là et la voix qu'on entend là dans le micro, c'est pas du tout le personnage un peu juvénile, adolescent qu'on entend dans Le Prince de Bel-Air. Comment est-ce que tu fais?
Ouais, mais François, tu sais, c'est cette voix-là que j'essayais d'avoir, la voix d'un mec juvénile, tu vois, comme quand il est avec Jazz et qu'il fait ouais, Jazz.
C'est tellement perturbant.
C'est ça.
C'est tellement perturbant. Comment tu fais pour moduler ta voix justement et obtenir comment est-ce que tu as créé entre guillemets la voix de Will Smith? Comment tu fais pour travailler tes cordes vocales et dans quel mood tu te mets pour faire Will Smith?
Comme ça. Non, parce que c'est évident que ça n'est pas vraiment sa voix américaine. Oui. Mais quelque part, il y a ces montées, ces descentes, cette voix d'adolescent qui, quelquefois, va peut-être qu'il va parler comme ça, et puis d'un seul coup, il va devenir Carlton. Il peut faire des choses comme ça. J'ai fait évoluer la voix, évidemment, qui ressemble de plus en plus à la mienne, puisqu'il d'abord, il n'a plus 20 ans.
Oui.
Il en a 50. Mmh. Bon, alors ça fait toujours que j'en ai 20 de plus que lui, d'accord. Mais finalement, j'ai la chance d'avoir une voix qui ne vieillit pas.
C'est vrai, blague dans le crack.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, voilà, et je pourrais encore, je pense, le doubler pendant assez longtemps.
D'accord. Il y a une question qui se pose, moi, je trouve, quand on parle d'adapter une série afro-américaine en France, surtout Le Prince de Bel-Air, c'est celle de l'AAVE, l'African American Vernacular English, le slang, tout simplement, l'argot...
Ebonics.
Voilà, l'Ebonics, l'argot afro-américain. Will Smith, c'est le premier personnage un peu hood qu'on a à la télé. Les exemples précédents de séries que je vois comme ça, ce sont plutôt des choses comme le Cosby Show ou Family Matters.
Déjà des noirs bourgeois.
Absolument, mais il n'a pas entre guillemets l'accent du ghetto.
Non,
ni Carlton non plus.
Il y a un peu de code switching quand même selon les épisodes.
Alors l'idée c'est ça, c'est d'apporter cette. Il y a un exemple dans. Je l'ai revu l'autre jour à la télé où il est avec
Martin Lawrence.
Bad Boys 2. À un moment, il y a un ado qui vient chercher la fille de Martin et
Reggie.
On en a parlé. Et il parle. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, etc. Bon, comme un mec qui aurait vraiment, tu te dis, il a un flingue caché derrière son dos et ce mec va me descendre. D'ailleurs, il le joue à la perfection, le gamin qui joue l'amoureux de la fille de Martin Lawrence.
Du coup, comment tu fais lorsque tu es un comédien français? Je crois que Kevin aussi, c'est une question qui te taraude un peu. La question de la LV, comment tu fais quand tu es un comédien français et que tu dois...
Moi, le sentiment que j'avais parfois, c'était pas seulement au niveau des voix, même au niveau des traductions en général, il y a parfois un peu d'euphémisation. Je passe mon temps à regarder Netflix et quand ça devient très racial dans un anglais américain en VO, parfois c'est pas traduit en français. L'exemple que je pourrais donner, c'est par exemple un comédien qui va dire « White people are crazy » et ça va être traduit en français par « Les gens sont fous ».
Oui.
Ou alors, au contraire, un Américain va dire black people et en français ça va être traduit par les blacks. Ce qui est encore un autre sujet.
Alors, de moins en moins maintenant, parce que nous sommes de plus en plus élevés contre ça, personnellement, je refuse évidemment dans les doublages de dire des choses. Et quand je dis que j'ai apporté quelque chose à Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, sa tante, qui est Aunt Viv, en anglais. Moi, j'ai décidé de l'appeler Tante Vivi parce que j'avais une tante qui s'appelait Sylvia et qu'on appelait Tante Vivi.
C'est génial.
Je dis beaucoup Kip dans Le Prince de Bel-Air. Ah, il le fait pas, non, le truc. Donc, j'ai adapté à ma façon. Pourquoi? Parce que, très souvent, et je comprends, je n'accuse pas, simplement, j'ai, moi, toujours refusé de prendre l'accent africain, entre guillemets, que les doubleurs, en tout cas les patrons de boîtes de doublage, voulaient que prennent... parce qu'ils disent, bon, ben, écoute, on va traduire ça par un accent africain.
Non, merci. Alors,
non, je ne le fais pas. C'est ça la grandeur de mon métier pour moi. La première, c'est de travailler avec qui je veux.
Je sais que ce ne sont pas forcément les comédiens qui écrivent les textes et qui s'occupent des traductions même des
c'est surtout
des
pas les comédiens,
séries.
Oui.
Mais est-ce que malgré tout, tu as un input là-dessus? Est-ce que tu peux dire, voilà, là, j'aimerais bien switcher ce mot, etc.
Tu apportes, évidemment. Ça dépend du comédien que tu es. Ça dépend, évidemment.
J'imagine qu'avec la bouteille que t'as, voilà, on va t'écouter si t'as un truc à dire sur ces
questions. Mais il y a des mecs qui te disent, non, tu sais, non, le client ne veut absolument pas. Je dis, appelle le client. Appelle le client devant moi. Alors, il faut que vous sachiez que depuis 1994, j'ai décidé de ne plus faire de doublage, tout simplement parce que je trouvais que les gens traitaient les comédiens de doublage très mal.
D'accord.
Moi, c'est pas pour ça que
comédien de doublage noir ou comédien de doublage en
comédien
général.
De doublage d'une façon générale. Nous avons fait une grande grève pour que soient reconnus certains droits, notamment celui, puisque notre voix est imprimée et qu'elle passe plusieurs fois, des centaines de fois, la série Le Prince de Bel-Air est sortie, par exemple, et les comédiens ont fait une action pour qu'il puisse y avoir des droits de suite dans la voix, puisque les télévisions s'en servent pour remplir les écrans. Il n'y a pas de raison que ça ne leur coûte pas de l'argent.
Bien sûr.
Donc ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu vraiment... Et là, les comédiens ont été très très maltraités. Je me suis dit, ça n'est pas pour moi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de théâtre. J'ai décidé de faire du théâtre. Et comme personne ne m'employait, j'ai décidé de prendre un théâtre pour pouvoir faire mes mises en scène, jouer et faire venir mes copains. Parce que je sais, justement avec cette bouteille, même si je n'en avais pas autant à l'époque, il y a 30 ans en arrière, je sais que il faut le pouvoir. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'à chaque fois, le mec va pouvoir tirer le tapis sur lequel tu es assis et tu vas te retrouver le cul dans l'eau, si je puis dire. Donc c'était ça. C'était ma façon à moi de combattre. En plus de ça, vous ne les avez pas encore. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Je crois que quand on est comme nous, issus d'une société un petit peu... qui n'a pas la majorité dans la société dans laquelle ils vivent, on va dire ça comme ça.
Expérience minoritaire.
C'est très bien dit. Écrire en pays dominé.
Jusqu'à... Oui, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 40, 42, 43, 44 ans, on est tout entier tourné vers sa petite personne, vers sa gueule, vers ce qu'on gagne, vers son paraître. On est acteur de sa propre vie. Et puis un jour... par quel mystère, je ne sais pas, ça se passe comme ça, on dit non, bon, ça suffit, je ne vais pas faire n'importe quoi parce que... Et donc, on étudie comment l'adversaire fait, puisque c'est un adversaire, même s'il n'est pas déclaré, c'est un adversaire. Ça n'est pas une... Enfin, je ne sais pas si... On ne va pas parler de guerre, parce que guerre, il y a des morts, etc. Mais enfin, c'est un adversaire.
Une compétition.
C'est une lutte.
C'est une lutte et nous n'avons pas les bonnes armes. Hein, on nous demande de jouer au basket sur un terrain de football avec une balle de tennis. Donc, oui, je ne peux pas le dire mieux que ça. Hein. Et quand tu arrives à comprendre les règles du jeu, on te met sur un terrain de basket avec un cochonnet et on te donne une boule à mettre, tu vois, les boules de pétanque. Donc, la règle du jeu change à chaque fois. Et donc, il faut que je m'invente mes propres règles. Il faut que je m'invente les choses qui font que j'ai mes propres règles. Donc, j'ai trouvé un théâtre. J'ai fait venir des compagnies d'outre-mer et d'Afrique. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent venir, puisque là encore, une compagnie africaine ne peut pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de structure. Ils pourraient, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc je prends chaque année quelques pièces de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, là d'où elles viennent, et au moins une pièce de la diaspora, et au moins une pièce de la diaspora, qu'elle soit arabe, qu'elle soit maghrébine ou française, ceux qui vivent la même misère que moi, en dehors du périphérique, par exemple, pour venir à la chapelle du Verbe incarné. J'ai, grâce à ça, presque forcé l'État a subventionné cette chapelle. Il la subventionne du bout des lèvres, je peux le dire, puisque le ministère de la Culture n'a jamais signé avec cette chapelle du Verbe Incarné une convention triennale, comme il a signé avec tout le monde. Ça fait 21 ans que ça existe. C'est-à-dire que chaque année, je dois redéposer le dossier pour pouvoir avoir des subventions. Le ministère de l'Outre-mer a très bien compris ça et l'a fait. Mais je les aurais. On est plus fort. Juste une chose. On est plus fort que l'institution. Parce qu'on est plus mobile, moins gras, et qu'on n'a pas, on n'est pas à l'intérieur de technostructures ou de structures très pesantes.
Plus agile, quoi.
On est plus agile. Ouais, on va des plus TP. Vite. C'est ça qu'il faut se dire.
Je vais te poser une question sur le théâtre un peu plus tard, parce que j'ai vu un truc marrant dans ta bio en regardant un petit peu tes différentes filmographies, voxographies, etc. sur Wikipédia. Mais j'ai envie de revenir d'abord sur les questions de doublage. L'un de tes collaborateurs réguliers dans Le Prince de Bel-Air, mais aussi un peu plus tard dans Anti sur scène, c'est un monsieur qui s'appelle Med Hondo, donc la voix officielle.
Dont on a déjà parlé dans le chip.
Tout à fait, la voix d'Eddie Murphy, qui fait également, par exemple, le flic de Beverly Hills. On s'écoute un petit extrait.
Que tout le monde s'arrête, monsieur, arrêtez, merci. Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Follet, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines. Je voudrais voir le contremaître. S'il vous plaît, stop. Vous, posez ça par terre. Posez ce saut par terre. Maintenant, dites-moi, où est le contremaître? Je veux voir le contremaître.
C'est moi.
C'est vous le contremaître.
Personne peut reconnaître Med Hondo dans la rue, mais tout le monde connaît sa voix, c'est un truc de fou. Moi, j'ai un sentiment, Kevin, moi, on a un sentiment assez, toi aussi, mais je pense, on a un sentiment assez ambivalent par rapport à la voix de Med Hondo.
Moi, en tant qu'Eddie Murphy.
Tu voulais réagir?
Non, moi
je voulais dire que je pense qu'il a fait, il a tellement bien fait son travail.
Excuse-moi, Kev, j'ai oublié de préciser, Med Hondo dans le Prince de Bel-Air, c'est celui qui joue Geoffrey.
C'est le butler.
Voilà, oui, c'est le
maître d'hôtel.
Geoffrey, remets-nous les glaçons.
Quand je pense à Med Hondo, surtout à la voix d'Eddie Murphy, je pense qu'il a tellement bien fait son travail que ça, ma théorie, c'est que sa voix est devenue la voix des Noirs en France. Moi, je suis martiniquais, j'ai grandi en Martinique, et quand je suis venu m'installer d'abord à Rennes, puis à Paris, des blancs qui voulaient faire des blagues, qui voulaient ricaner. Exactement. On m'a plus fait l'accent Eddie Murphy VF qu'un accent africain, par exemple, ou qu'un pseudo accent antillais. J'ai eu plus droit à ça.
On m'a appelé Eddie Murphy, moi, au bal. On m'a appelé Eddie Murphy.
Donc, à quel moment, je sais pas si c'est la réalité qui dépasse la fiction.
Nos parents, ils avaient Michel Leeb, et notre génération, c'est Eddie Murphy, quoi. En termes de voix.
Oui, mais enfin, bon, ça ne représente pas la même chose quand même. Med et Eddie Murphy. Moi, je pense que ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. C'est aux Blancs qui te disaient.
Oui, bien sûr.
C'est devenu la voix des Noirs.
À tel point c'est que ça. Med, qui, pendant cette grande grève de doublage, n'a pas doublé Eddie Murphy dans je ne sais plus quel film, le mec qui l'a doublé a pris la voix de Med.
D'accord.
Et dernièrement encore, il y a un mec qui a doublé le génie dans je sais pas quoi et qui a essayé de prendre ma voix.
Ah, c'est pas toi qui double le
génie dans
Aladdin ?
Non. D'accord. Et tu vois, le mec a essayé de prendre ma voix. C'est extraordinaire. D'accord. Non, c'est pas scandaleux. Il y a des gens avec lesquels, et c'est ça la beauté de mon métier, il y a des gens avec lesquels j'ai pas envie de travailler, donc je ne travaillerai pas. Alors bon, je pourrais, si je dis 50 000 euros et qu'il me dit oui,
évidemment. Non, mais Aladdin, c'est un choix délibéré que tu as fait de ne pas le doubler.
Ah non, on ne m'a même pas posé la question.
D'accord, je voulais parler de Disney Money, mais ok.
On ne m'a même pas posé la question. Okay. Non, quand c'est des films de Disney, quels que soient les acteurs qui sont dedans et quels que soient les comédiens qui ont l'habitude de doubler ces acteurs, les grandes boîtes françaises de doublage disent non, on va prendre des stars.
Mais alors, comment t'expliques que la voix d'Eddie Murphy, du coup de Med Hondo, soit devenue dans l'inconscient collectif français une voix si attachée à celle des Noirs? Parce que comme disait Kevin, moi aussi, j'ai vécu un peu le même truc, c'est qu'on m'a plus souvent fait cet accent de « Hey mec, tu veux fumer de la ganja avec moi ?» Tu vois, on m'a plus fait cet accent qui en fait est un accent fictionnel. Parce qu'en fait, Med Hondo, il a créé un parler fictionnel qui n'est ni américain, ni français, ni antillais, ni africain. Et il a créé cette espèce de voix un peu inédite qui est devenue une sorte de blueprint, tu vois, à suivre.
Ça n'est que le rythme de la voix de l'acteur qu'il double. J'oublie à chaque fois son nom. Eddie Murphy, c'est le rythme de cette voix-là. Med, c'est celui qui joue le maire dans Anti sur scène, par exemple. qui est un monsieur de, je sais plus quel âge il a, il est un peu plus âgé que moi, mais bon, enfin, bref, sans coquetterie, et oui, quand il double, il change sa voix, lui aussi a une voix extrêmement plastique, et il peut faire ça, puisque c'est lui qui a doublé pendant très longtemps. C'est reparti. Cet acteur noir américain qui a mon âge, ou non, qui est même un peu plus âgé que moi,
Morgan Freeman.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
C'est Ned qui le double.
Eddie Murphy et Morgan Freeman.
Donc c'est peut-être parce que c'est une voix drôle et qu'ils peuvent l'imiter facilement. C'est pour ça qu'ils essayaient d'imiter ma voix ou la voix de Will Smith quand on ne l'écoute qu'en français, c'est difficile.
Ouais.
Je pense que c'est comme ça. J'ai un ami acteur dans Shérif, lui aussi, quand il veut faire... il fait « Hey mec, ça va ?»
Bon. On t'a déjà reconnu au téléphone ou ailleurs, est-ce qu'on a déjà dit « Ah,
ah oui,
vrai?
Tout le temps. Tout
ah
temps.
Oui
ah oui, tout le temps. Et moi, je reste toujours... Je suis vraiment très surpris. Un jour, j'étais à République, à côté de chez... À l'époque où il y avait Tati, il y a des mecs qui vendent des valises. Et j'étais dans la rue, le mec était dans le fond de son magasin. Je pensais pas qu'il était au téléphone. Et j'ai dit, s'il vous plaît, elle coûte combien cette valise?
Là, j'ai entendu.
Et le mec...
Tu cherches aussi.
C'est perturbant.
Et le mec, il se retourne, il dit, hé... Vous pouvez redire, et bien avec le téléphone, attends, j'ai Will Smith en face de moi, allez-y, monsieur, allez-y.
Voilà.
Et un jour, pas très loin d'ici encore, je remontais la rue, je parlais avec des gens comme ça, et il y a trois jeunes mecs qui nous dépassent et qui disent, vous faites la voix de Will Smith. Et ça me surprend toujours.
Je pensais pas que ce serait si automatique. Alors, t'as un autre collaborateur de longue date qui s'appelle Lucien Jean-Baptiste, on n'est pas très tendre avec Lucien Jean-Baptiste dans le chip pour différentes raisons. Qui a doublé notamment Chris Tucker, Martin Lawrence également, très grand doubleur, Don Cheadle, qui dit des choses assez intéressantes sur le métier de doublage. On va l'écouter ce qu'il dit.
Il y a des Will Smith qui sont arrivés.
Ouais.
Et là, on a mis un garçon pour doubler Will Smith qui s'appelle Medondo, qui est noir, machin, tout ça. Ouais. Et là, c'est lui qui a créé ce truc, a créé, ouais, mec, alors le type arrive à Brooklyn, mec, tout ça. Les blancs qui doublaient les comédiens noirs se sont dit, putain, mais ça y est, c'est ça le truc pour doubler les noirs. Donc, ils sont tous mis un petit peu à parler, votre honneur, je suis avocat à la cour de machin. Donc, c'est devenu une espèce de truc très étrange. Et si vous voulez, les blancs qui doublaient des noirs se sentaient une espèce d'obligation de se négrifier. Il faut être noir, mais il faut pas avoir un accent antillais, il faut pas avoir un accent africain, parce que ça marche pas.
Bah oui.
Donc, les individus comme moi, entre guillemets, les noirs de France sans accent, mais qui ont un timbre, parce qu'effectivement, le physique, la forme du visage, ont des effets sur les voix, c'est les résonances, les masques, etc. Donc, on pourrait dire que globalement, comme ça, j'essaie de résumer, les voix de noirs sont plutôt graves.
D'accord.
Okay, le problème, c'est que, ok, on met des noirs sur des comédiens noirs, mais l'inverse ne se produit jamais. C'est-à-dire que jamais on va me donner la chance de doubler un comédien blanc.
Alors, t'as pas l'air d'accord tout à fait avec ce qu'il dit.
Non, mais je ne vais pas soulever de polémique avec... les noirs n'ont pas la voix plus grave, ni la voix moins haute que les blancs. Je veux dire, ça me chagrine toujours, toujours. Ça dépend de la langue qu'on parle, ça dépend... Enfin, autour de cette table, qui a la voix très grave?
Moi.
François.
Moi, je l'ai moins, je pense.
Moi aussi.
Vous êtes noir? Oui, mais toi, bon,
t'es un peu ambigu.
Vous êtes noir, tu vois, si tu veux. Donc, moi, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il s'est trompé hein, quand il a dit Will Smith.
Oui, quand il parle de Medondo.
Il voulait dire Eddie Murphy.
Ouais.
Mais c'est peut-être un lapsus significateur, je ne sais pas, puisqu'il a déjà doublé Will Smith.
Surtout, vous êtes combien de grands comédiens à avoir doublé des acteurs noirs afro-américains?
Il y a Jacques et Jean-Michel Martial, voilà.
Vous êtes 5-6 à tout casser.
Oui, on est 5-6 à tout casser, mais je veux dire, moi, j'ai gagné... Alors, bon, c'est faux ce qu'ils disent aussi, puisque j'ai doublé beaucoup d'acteurs blancs, je ne sais pas lesquels, mais dans les 10 ans où j'ai vraiment... Je n'ai fait que ça.
Ouais.
Entre 82 et 92, le Prince de Bel-Air, 93, je n'ai fait que ça. J'ai passé ma vie à faire du doublage. Et après, comme je vous disais, en 94, quand je me suis dit, bon, allez, j'arrête ce truc-là. ça me donnait une occasion de faire autre chose. Et j'ai toujours fait ça dans ma vie, d'un obstacle, faire un chemin. Et
Non, parce que c'est vrai que c'est un vrai questionnement, en fait, en France, sur cette tradition qui dit que les Noirs ne peuvent doubler que les Noirs, et que les Blancs, du coup, pourraient doubler tout le monde,
oui.
Noirs et Asiatiques, alors que les Noirs ne peuvent pas doubler de Blancs ni de Asiatiques parce qu'ils auraient cette espèce de tessiture différente.
C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord, parce que ce sont des excuses. Parce que ce n'est pas vrai, ce sont des excuses.
Tu penses que Lucien Jean-Baptiste n'a jamais eu l'occasion de doubler un comédien blanc parce que...
On ne le lui a jamais proposé. Mais pourquoi ne le lui a-t-on jamais proposé?
C'est quand même pas la faute à pas de chance. C'est quand même pas la faute à pas de chance.
Non, c'est parce que on ne laisse pas des comédiens noirs doubler des comédiens blancs. Parce que je pense que les comédiens blancs diraient, toute chose égale par ailleurs, mais il n'y a pas assez de comédiens blancs.
Pourquoi on va chercher un noir?
Pourquoi on va chercher un noir? Et même le doubleur, c'est-à-dire le patron, qui passe la commande, et il va trouver ça bizarre. Il va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc on voit bien que on voit bien que ce genre de raisonnement est fruit des structures qui nous entourent.
C'est systémique.
Ben oui, il y a une majorité d'hommes blancs qui ont commencé par faire du doublage, qui se sont cooptés entre eux. C'est comme pour l'ENA, c'est comme pour Sciences Po, c'est comme pour tout ce qu'on voit. Quoi. C'est pas plus que ça.
Ouais. Alors moi j'ai un exemple très particulier. Il s'agit de la doubleuse Yasmine Modestine, qui est métisse et qui a témoigné dans une tribune sur Rue 89 où elle a raconté son expérience de 2007 sur un plateau où on lui a dit alors je sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode. Et comme vous avez des voix spéciales, je peux pas vous prendre sur tout parce que vous pouvez pas doubler les blancs.
You people.
Voilà, donc elle ajoute dans la tribune, ce métier a un problème avec la couleur. Seuls les comédiens noirs américains seraient valables. Et comme, je cite donc ce qu'on lui a dit, il n'y a pas de bons comédiens noirs français, ni assez de diversité. Force est d'employer des comédiens blancs qui sont meilleurs.
Oui,
donc voilà. Après, elle a saisi la HALD, qui est une instance qui traite la discrimination. Et la HALD n'a pas accepté de traiter son dossier, sauf quand elle est allée voir la presse et qu'il y a eu des articles qui ont commencé à sortir. Le Monde explique, selon l'enquête menée par la HALD, les directeurs de casting rejettent régulièrement des candidats noirs parce qu'ils estiment que ceux-ci ont une voix trop spécifique, inadaptée à un personnage blanc.
Mais...
Et l'enquête s'est soldée du coup par un rappel à la loi au responsable de la société de doublage mise en cause, Nice Fellow. Donc voilà, il y a eu quand même un débat. C'est controversé, cette histoire.
Non, mais je n'ai pas dit que... Je dis simplement les raisons.
Oui, bien sûr.
Je dis pas... c'est Sciences Po, c'est l'ENA, c'est le déterminisme. Il n'est pas social, cette fois. C'est du déterminisme racial ou ethnique, comme vous voulez. Ça n'est pas plus que ça. Je regrette toujours quand nous livrons à ce genre de choses, en disant que notre voix est un peu plus grave, un peu plus... Pas du tout, je veux dire, les plus grands barytons, les plus grandes basses, il y en a en Italie, il y en a partout, des ténors, on ne les connaît pas malheureusement assez en France, mais moi j'ai plein d'amis noirs, antillais, guadeloupéens, martiniquais, qui sont d'excellents ténors, qu'on ne verra jamais à l'opéra en France. Bon, je veux dire, il faut bien que nous nous disions cela. Il n'y a pas de chronomètre. Quand il y a un chronomètre, il n'y a pas de problème, il est champion. C'est lui qui va le plus vite. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ben ouais, mon vieux, il y a le chronomètre.
Ouais, c'est bien.
Quand il s'est dribblé, ben oui, c'est lui le champion. On ne peut pas faire autrement. Mais si on pouvait, on mettrait quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas. Il y a le chronomètre, il y a le but. C'est
tu
normal.
Tu voulais réagir ?
Ouais, je voulais réagir à tout ce que tu dis, parce que ces débats-là qu'on est en train d'avoir, j'ai l'impression que, justement, dans les années 90, les premières fois où j'en ai entendu parler, c'est dans le Prince de Bel-Air. De 90 à 93, donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi en Martinique, mais de 6 à 9, j'ai vécu près de Bordeaux, et dans un environnement complètement blanc, à part ma famille. Et les seuls moments un peu cool de blackness qu'il y avait, c'était Will Smith dans le Prince de Bel-Air. Et il y a un épisode en particulier qui m'a marqué, qui est pour moi une des discussions les plus complexes qu'il y a eu dans le Prince de Bel-Air, et ça m'a marqué, j'y pense, plus de 20 ans après. C'est un épisode que j'ai retrouvé qui s'appelle Blood is Thicker Than Mud. Le sang est plus épais que la boue, saison 4, épisode 8. Oh. Les deux cousins, Will et Carlton, donc postulent pour aller à la fac et doivent postuler pour participer, pour être intégrés dans des fraternités noires. Et donc on leur donne une sorte de bizutage à faire, en particulier Carlton. C'est plus difficile pour Carlton. Et à la fin, Le responsable du recrutement qui s'appelle Top Dog explique à Will que lui il a accepté mais que Carlton n'est pas accepté parce que c'est un sell-out, c'est un vendu. Et donc Carlton l'apprend et c'est peut-être une des rares fois, une des seules fois de la série où Carlton sort de son personnage et a tout un discours sur ce que c'est être un vendu, sur l'identité noire, sur toutes ces choses-là. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a marqué? Quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu que toi aussi ça t'a...
Parce que c'est assez surprenant, mais ouais. Ça ne l'est moins quand on sait que l'argent qui a servi à faire cette série, c'est Quincy Jones qui l'a mis. Je veux dire, là encore, on parle de pouvoir. Quand j'ai tourné Médecin de nuit dans les années 80, où c'était la première fois qu'en France, on voyait un noir avec un rôle moteur, c'est-à-dire qu'il ne dépendait de personne, il était médecin, je veux dire, c'est un sorcier. Il peut rentrer à n'importe quelle heure chez les gens. La série a été écrite par Bernard Kouchner. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Bernard à propos de ce rôle, parce qu'il avait un ami martiniquais qui s'appelait Alpha, probablement... un des cousins ou des oncles de José Alpha, dramaturge, metteur en scène de Martinique, on a parlé, j'ai lu le premier épisode, j'ai dit à Bernard Kouchner, il n'est pas question de faire comme si ça n'existait pas. Il n'est pas question de faire comme s'il n'y avait pas de racisme en France. On ne peut pas faire ça, même si c'est pour la 2, même si c'est un machin de médecin. Je ne veux pas dire qu'on va le foutre dehors à coups de pied ou des trucs comme ça. Non.
Tu veux dire qu'au début de la série, le rôle était écrit un peu comme ce dont on parlait sur Green Book, quoi. Que la série voilà, était écrite d'une manière...
Oui, Alpha, il est normal blanc, quoi. Mais on le fait jouer par... Oui, et je dis non. Quand un médecin noir, se présente à 2h du matin et qu'il frappe à une porte... et que quelqu'un est malade, le mec, il n'ouvre pas.
Aux États-Unis, il se fait même tirer dessus à travers la porte.
Voilà. Hein, mais en France, bon, il y en a moins, parce que sinon, il y a quelques gilets jaunes qui seraient morts depuis longtemps. Ouais. Bon, j'ai oublié ça. Non, parce que je pense à Luc Ferry qui a dit que...
Oui.
Bon, vous comprenez, c'est pas moi qui dis ça.
Hein. Pas de souci.
Ok. Et je dis, non, le mec, à travers le Judas, il dit, mais je veux un médecin. Où il ouvre la porte parce qu'il n'a pas de Judas, et il dit non, mais j'ai demandé à un médecin. Avec autorité, tu écartes en disant je suis médecin. Voilà. Et puis, ou une dame qu'on va voir et qui dit à son mari, je dis il faut que tu mettes ça. Ou le mec qui est à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de. Les cabines téléphoniques étaient presque toutes cassées. Donc le médecin, il va téléphoner à Léon, si vous vous souvenez de cette série, il va téléphoner à Léon d'un café. Et en général, il arrive, il dit je suis médecin, donnez-moi. Je peux avoir le téléphone. Et puis il téléphone. Et à côté, il y a un mec qui dit. Bien, ils sont médecins maintenant.
Donc en gros, t'as obligé Bernard Kouchner.
Oui, je ne l'ai pas obligé, j'en ai parlé. Bernard a trouvé ça
mis ton input,
juste.
Quoi. D'accord. Quand on s'est rencontrés, je ne sais plus comment t'as formulé ça, mais tu me confiais une forme de. Pas de lassitude, c'est pas le mot que j'emploierais, mais en gros, une forme de désillusion. T'es un peu désabusé quant au fait d'être un acteur noir en France. Et tu me disais, j'ai refusé des tas de rôles. Maintenant, tu refuses quasiment tout. Tu me disais, est-ce que tu peux parler un peu des rôles, peut-être que des trucs vraiment, vraiment pétés qu'on t'a proposé de faire, tant au doublage qu'au cinéma?
Jean-Marc Thibault, paix à ses cendres. Et je n'aime pas parler des gens qui ne sont pas, qui sont morts. Me dit un jour, dis-moi Greg, je le connaissais bien, me dit Greg, je fais un truc qui s'appelle Maggie, tu connais? Je dis, ouais, formidable, c'est très drôle. Est-ce que tu...
Voilà Maggie.
Non, Maggie.
Non, je connais pas.
Bon, en fait, pardon.
J'ai 30 ans, c'est moi le plus jeune autour de la table.
Donc, en fait, c'est une série des années
80.
À cheval
un peu sur les
90.
Pas à cheval sur les 90 quand même. Sur les années 2000, Mélanie. Je crois qu'il y a eu un spin-off dans les années 2000.
Ça repasse. Donc il y a Jean-Marc qui s'appelle Jean-Marc, il y a le médecin, son ami, et il y a Maggie qui, un jour. Alors, donc je reçois le scénario. Si on a 3 minutes, je vais le faire très vite. Aboubacar, ambassadeur du Burikini, vient voir Maggie.
Burikini, c'est le vrai nom du truc?
Ah oui, non, mais je regrette d'avoir déchiré ce scénario de rage. J'aurais dû le garder, mais ça a été joué, et par un noir. Ouais. Et ça n'a soulevé aucune indignation.
Non, continue.
Il vient voir Maggie, et alors donc la bonne...
Marthe Villalonga. Marthe
Villalonga.
Mais comment vous connaissez ça?
Dit...
Gang culture blanche, je teste.
Parce que... parce que c'est notre culture aussi, et c'est ça qui rend de nous, c'est ça qui fait de nous des gens forts, parce qu'on connaît cette culture-là aussi.
Oui.
Ah, bon, donc je continue. La bonne ouvre la porte. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, c'est pour qui? Ben, je voudrais voir Maggie. On sait pour... bon, alors, voilà, il y a un monsieur noir très bien habillé et qui s'appelle Aboubacar et qui... Oh, Aboubacar, mais bien sûr, ouvre la porte. Aboubacar entre, il s'embrasse parce que Maggie, on l'apprend pendant ce truc-là, qu'elle a été son correspondant pendant qu'il faisait ses études à Paris. Derrière, il y a le médecin ami de Jean-Marc avec lequel il parle, et qui dit, mais tu te rends compte, ils sont ambassadeurs maintenant, enfin bon, bref. Et puis, Aboubacar prend congé de Maggie, les affaires de l'ambassade l'appellent. Il s'en va. Maggie dit, moi, je suis très contente de voir qu'il a quand même bien réussi, mais c'était un élève studieux, etc. Et puis, Non, il ne revient pas la voir. Et pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, le médecin allume la télé, parce qu'il laisse sa femme parler, machin, et Jean-Marc, et il y a un coup d'état au Burkini, dis donc. Mm-hmm. Ah, Aboubacar dit, bon, il faut que j'y aille, il faut que je rentre à l'ambassade. Il s'en va, je vous passe les trucs. Hein. Ouais, ben alors bon, dans ces pays-là, il y a toujours des coups d'état, etc. Un peu de temps se passe, un balayeur qui sonne à la porte. Le balayeur, il dit, mais vous me reconnaissez, c'est les balayeurs noirs de l'époque, avec le truc, la cagoule jusque-là, etc.
Ouais, ouais.
Mais il dit à la bonne, mais vous me reconnaissez pas, c'est Aboubacar. Ah, attendez, quand elle va, madame, il y a Aboubacar, mais alors il n'est plus habillé comme la dernière fois, il est balayeur, etc. Donc il arrive, il explique le coup d'État, etc. Ce qui entraîne lorsqu'il... Et Maggie dit, mais on va faire quelque chose. Moi, je connais, j'ai du monde bien très haut placé. Donc, Aboubacar s'en va, le balayeur s'en va. Le médecin dit à Jean-Marc, mais oui, dans ce pays-là, si on n'est pas ambassadeur, on est balayeur.
Ah, putain.
Ouais,└└└└└►
Comment ?
Quelle bouffe !
Non, mais il revient parce que le coup d'État a échoué et il est rétabli dans ses fonctions et il vient donc remercier Maggie parce que elle est intervenue avec des gens placés. Et il est venu la décorer. Mais dans son pays, on ne décore pas les femmes, on décore les hommes, donc il décore Jean-Marc du Grand Baobab d'Or.
D'accord.
Ça, en 1986, en France. 5 siècles de esclavage, traite, code de l'indigénat, immigration, tirailleurs sénégalais, 5 siècles de colonisation font qu'un garçon, parce que le mec il n'a pas 90 ans, celui qui a écrit ça, font qu'un mec qui devait avoir 30 ou 35 ou 40 ans a écrit cette ignominie. J'ai refusé.
D'accord.
On m'a dit, mais Greg, non, pas d'accord, parce que j'ai refusé. On m'a dit, mais Greg, attends, mais enfin, t'es con, tu peux le faire, c'est rien. J'ai dit, d'accord. J'ai demandé, je ne sais pas si vous ne pouvez pas imaginer, maintenant ça serait comme si j'avais demandé 15 000 euros par jour. Il y avait 4 jours de tournage.
Ah ouais.
Je suis allé jusqu'à 12 000 euros. Et ils ont refusé.
D'accord.
Mais non, mais je ne l'aurais pas fait de toute façon. Mais quelqu'un l'a fait. Je ne dirai pas qui. À vous d'aller chercher cet épisode. À vous d'aller voir ce truc-là. Peut-être que je l'ai un peu transformé, mais c'était quoi ? Il y a un concentré de racisme là-dedans. D'abord, un noir, s'il est ambassadeur, c'est un peu par chance parce qu'il peut aussi être balayeur. C'est-à-dire qu'un balayeur peut être ambassadeur et vice-versa. Jamais ça n'arriverait à un homme blanc qui est ambassadeur, il ne serait sûrement pas balayeur. Deuxièmement, n'importe quelle femme blanche peut intervenir dans les affaires extérieures d'un État. C'est possible, on est en 86, et puis même maintenant d'ailleurs. Bon,
la France
d'accord. Troisièmement, il revient dans ses fonctions parce qu'elle est intervenue. Quatrièmement, il vient décorer, mais il ne décore pas la femme parce qu'ils sont tellement sexistes dans son pays que ce n'est pas les femmes qui le décorent, c'est l'homme. Et en plus de ça, c'est le grand baobab d'or, ah pardon, j'ai oublié, qui est taillé dans un vieux pneu.
Ouais, non, mais c'était un truc drôle, mais ça a existé, et okay.
ça existe.
Et je vous assure que si, quelquefois, vous décortiquez les choses, vous vous dites, mais c'est pas possible que ça puisse, qu'on puisse avaler ça. Vous ne le voyez pas sur les livres que vous lisez, les livres de contes, les livres anciens, c'est terrible, il faudrait faire des procès. Et donc, ma lassitude, pardon, hein, pour en revenir à ce que tu disais, c'était, de dire, bon, j'aurais bien voulu, quelquefois, me lever et dire putain tiens je vais lire un scénar et puis j'ai pas de problème d'ethnie de machin de truc de me dire dans la phrase dans le scénar moi j'épouserai jamais une femme noire pourquoi parce que c'était je ne sais plus dans quel scénario qu'on me proposait il y avait cette phrase là moi j'épouserai jamais une femme noire parce que je sais plus. Bon, j'ai dit au mec, j'ai dit, écoute, mais c'est ridicule, pourquoi t'as mis cette phrase-là ? Bah oui, mais j'y tiens, je dis, bon, mais je le fais pas.
je sais, mais j'aime bien.
C'est tout, donc.
Inversement, pour sortir un peu de trucs un peu dark, c'est quoi, à ton avis, le rôle que tu as le plus, dont tu as été le plus fier pas nécessairement dans ta voxographie par rapport à Will Smith, mais même en règle générale, en tant qu'acteur ou comédien, quel est le rôle qui t'a le plus tenu à cœur et dont t'as été le plus fier d'interpréter ?
Je ne suis pas sûr qu'on peut parler de fierté. On peut être fier quand un rôle est difficile et qu'on l'interprète et qu'on vous a dit qu'on l'interprétait bien. C'est probablement le premier rôle que j'ai eu. Moi, mon conservatoire, je l'ai fait chez moi, en Guadeloupe, quand j'étais petit, entre 7 et 12 ans d'abord, et entre 7 et 9 ans, puis lorsque je suis revenu, entre 12 et 15 ans. Puisque je suis né en Guadeloupe, on a resté ce que j'ai 7 ou 8 ans, ensuite on est parti 2 ans, je suis revenu, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, bon, peu importe. Et je suis revenu, et je suis reparti définitivement, j'avais 15 ans. Là, j'ai toujours aimé le théâtre, j'avais la chance d'avoir une grande maison dans Pointe-à-Pitre, mon grand-père avait mis une petite scène, et je montais des pièces de théâtre. Et j'ai monté des pièces de théâtre. Et au lycée en France, quand j'étais chez les Jésuites, j'ai monté des pièces de théâtre. Et donc, c'est ce que je voulais faire. On m'a dit, non, écoutez, faites autre chose. Bon, j'ai essayé de faire du droit. Et une fois, j'ai croisé un mec, je suis à la télévision, je vous la fais courte. J'avais 19 ans. Il cherchait des acteurs pour un film qui se déroulait à la télévision. J'ai dit, non, moi, je voulais être acteur. Il cherchait des figurants. J'ai dit, moi, je voulais être acteur, pas figurant. J'ai continué mes affaires. Et puis, une semaine après, j'ai rencontré un copain qui m'a dit, tu sais, on cherche des figurants. J'ai dit, mais c'est payé combien, figurant ? Parce que là, au bout d'un moment, si tu veux, c'était les vacances. J'étais pas parti en Guadeloupe avec mes parents pour pouvoir bosser. Je bossais à la poste. Je soudais des fils électriques, bon, enfin bref, et je ne gagnais pas beaucoup. Et quand il m'a dit, j'ai dit, ah non, ça vaut le coup de se mettre en congé 4 jours et puis d'aller voir ça. Et puis quand je suis arrivé, Jean-Christophe Averty a dit, bon, les acteurs d'un côté, les figurants de l'autre, je me suis mis avec les acteurs. Non, pas si simple, j'ai passé une audition.
D'accord,
et j'ai eu le rôle. D'accord. Et là, dans ce rôle-là, il y avait Melvin Van Peebles qui était en train de monter une pièce qui s'appelle « La fête à Harlem ». Et comme je parle très bien l'anglais, il est venu me voir pour me demander d'être son assistant. Parce qu'il n'y avait pas de rôle pour moi. Et comme c'était l'été, et qu'il allait me donner aussi du pognon, bon, j'ai fait son assistant. Un mec a dit, bon, je m'en vais. Vous ne montrez jamais cette pièce. Enfin, bon, bref, il faisait autre chose. Le comédien noir en question s'appelait Amboise Mbia. Et donc, Melvin m'a demandé si je pouvais le remplacer. Je l'ai remplacé. Je me mettais du talc dans les cheveux que j'avais abondamment, afro et tout, à l'époque. Et je jouais le rôle de Monsieur Washington. Je m'étais mis des rides que j'ai maintenant, mais je ne le savais pas. Voilà. Et ça s'appelait La fête à Harlem. Et là, il y avait un type qui s'appelle Robert Liensol, qui jouait le rôle principal, qui m'a vu dans ce rôle-là. Et au mois de novembre, il m'a appelé pour me dire que Antoine Bourseiller, un grand metteur en scène, cherchait un acteur pour jouer une pièce de Leroy Jones qui s'appelait Le métro fantôme, The Dutchman, et qui est une pièce où dans le métro, ce jeune noir rencontre une femme blanche qui le tue. Enfin bon, bref, une histoire épouvantable écrite par Amari Boukara à l'époque des Black Panthers, qui est un très grand Black Panther. Je vous parle de ça, c'est les années 68-69. Et je passe l'audition et j'ai le rôle. Et j'ai joué cette pièce 500 fois. Et c'est probablement celle-là, parce que c'est la première fois que je montais sur une scène de théâtre, vraiment. C'était pas la scène que j'avais fait, avec des lumières, des trucs, des directions d'acteurs et tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est d'accord. de ça dont je suis le plus fier.
Belle histoire.
Belle histoire. Est-ce que je peux te demander de lire ce petit texte avec la voix de Will Smith, mode Prince de Bel-Air, s'il te plaît ?
Salut, c'est moi, Will Smith. Vous écoutez Le Chip, le meilleur podcast pop culture de tous les temps. Ouais !
C'est parfait, merci ouais beaucoup.
On l'a.
On le met au début de chaque épisode.
Merci beaucoup, Greg. On va passer aux recommandations.
Moi, ma recommandation, cette quinzaine, c'est un podcast français qui s'appelle Banana Kush. C'est présenté par Camille Diao et Christophe Payet. Ça ne parle pas de banane, ça parle de ça.
Interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Banana Kush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Bonjour et bienvenue dans Banana Kush, le podcast consacré à l'actualité du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est incontestablement devenue un fait social et culturel.
Dans ce nouveau numéro, vous allez entendre un élu socialiste qui veut faire de la Creuse le Colorado français.
Un rappeur qui a vendu mais ne consommait pas à l'époque. Aujourd'hui, il consomme mais ne vend plus.
Et puis nous vous avons tendu le micro pour nous raconter vos petites mésaventures, vos histoires de bad trip.
C'est marrant, quand il parle de lobby de la banane, j'ai cru que c'était un podcast sur le chlordécone.
Mais je pense que la serre vient de reportage sur le chlordécone. Et comme j'en ai parlé il y a deux semaines, alors voilà, c'était dans
tu
la continuité
petite,
de la banane.
Tu fais une petite pause dans la verticale chlordécone.
Mais en fait non, voilà, c'est ça, je parle pas de banane
ce podcast,
cette fois-ci.
C'est très toi quand même.
Non, je vois pas de quoi tu parles, d'accord, Mélanie. Okay. Donc, alors du coup, avant d'aller aux Canaries, je suis passé 24 heures à Amsterdam. Et je sais pas quelle a été l'association d'idées dans ma tête, mais je me suis dit qu'il fallait que je parle de ce podcast-là. C'est présenté, comme je le disais tout à l'heure, par Camille Diao et Christopher Payet. Et c'est un podcast indépendant qui parle de cannabis. Et dans le deuxième épisode, ils reçoivent Mathieu Kassovitz, qui est très détendu sur le sujet, comme s'il était intouchable. Dans le troisième épisode, l'extrait qu'on vous a passé tout à l'heure, c'est ils reçoivent le rappeur Joker de la MZ, qui parle de la consommation en cité. C'est très intéressant. Et dans le dernier épisode, dans le quatrième épisode, ils reçoivent Laura Satana, la tatoueuse de Booba, entre autres,
oui.
Qui parle de la weed et des femmes. C'est vaste sujet, c'est complètement passionnant. J'ai trouvé que la façon d'en parler était très maligne. Il n'y a pas d'apologie de la drogue, mais il n'y a pas non plus de posture morale complètement ridicule. On sait que la loi est très répressive en France, même sur le débat autour du cannabis. Et puis j'ai trouvé très bien aussi que l'émission soit présentée par Camille Diao, une femme noire, parce que j'ai souvent l'impression qu'en France en particulier, à part les rappeurs, les noirs et les personnes racisées en général n'en parlent pas. Donc j'ai trouvé ça assez cool et je vous encourage à écouter cette émission qui est vraiment sympa, et en plus ils sont en indé. Voilà.
Alors moi, pour cette quinzaine, ma recommandation, c'est Kevin Hart's Guide to Black History, un comédie spécial sur Netflix. On s'écoute un petit extrait rapide.
I want you to listen to your dad. There's so much more to black history. There's black heroes everywhere. Harriet Tubman, 5 foot even. Sammy Davis Jr., 5 foot 5. Prince, 5 foot 2.
Why do you keep mentioning their heights?
No reason.
Kevin Hart, ce petit. C'est un comédie spécial d'une heure et demie, donc. Et en gros, l'histoire, c'est la fille de Kevin Hart, enfin la fille fictionnelle de Kevin Hart, qui est énervée, en fait, parce qu'elle est avec un copain à elle qui est blanc. Et en fait, ils sont en train de regarder 12 Years a Slave. Sauf qu'évidemment, elle est très énervée et très frustrée parce qu'elle voit à l'écran. Et du coup, elle s'embrouille avec son copain et elle se retire dans sa chambre. Et du coup, Kevin Hart vient la rassurer et essaie de lui expliquer, en fait, que l'histoire noire américaine et par extension l'histoire noire ne se résume pas à l'esclavage. Et du coup, il va s'employer à lui prouver qu'il y a plein de personnages super intéressants noirs dans l'histoire américaine. Et donc, en gros, le spécial prend la forme de petites scénettes, des petites scénettes humoristiques à chaque fois, avec plein de guests comme Lil Rel, vous savez, le meilleur ami dans Get Out, ou Tiffany Haddish. Et en gros, voilà, t'as plein de personnages iconiques comme Josephine Baker, Matthew Henson, qui était l'assistant de Robert Perry, qui est le premier homme
à avoir atteint le pôle Nord, sauf qu'en fait c'est pas lui, c'est Hanson justement.
Ouais, c'est un noir, ouais,
voilà, Hanson okay. est arrivé avant lui, et donc c'est présenté dans le spécial ou d'autres personnages de l'histoire américaine. Par exemple, j'ai appris que les chips, vous savez, les chips ont été inventés par un homme noir, comme quoi, voilà. Et Tiffany Haddish, elle joue Mae Jemison, qui est la première femme afro-américaine à avoir été dans l'espace.
C'est assez drôle la scène où elle appelle la NASA.
Ouais. Allô.
Je suis une femme noire, je voudrais devenir astronaute. Allô.
Allô. Ouais. Ça a coupé. Ouais. Bref. Donc voilà, c'est drôle, c'est accessible, c'est pédagogique. Ça s'adresse aux enfants évidemment par le format et le ton, mais honnêtement nous les adultes on apprend plein de trucs et donc c'est assez cool. Voilà, c'est sur Netflix.
C'était le Chip. On revient dans 15 jours ou presque, car la date ancestrale du double anniversaire Kevi-Mélanie, le 14 mars, arrive à grands pas. Donc l'émission sera probablement décalée de quelques jours pour fêter ça. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur
@lechippodcast.
Très bien. On a un petit rebranding en cours avec l'équipe de Binge Audio pour les réseaux sociaux en mode American Next Top Model. Donc soyez prêts.
My body is ready.
Voilà. Laissez-nous également une review sur Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le
classement des podcasts.
Très bien. cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. Merci Quentin.
Greg, merci d'avoir été avec nous.
Merci Quentin, merci François, merci Kevin, merci Mélanie.
C'est ça.
Merci à tous.
Merci. Salut.
À très vite.